Voilà, à toi, Véran. Bonsoir à tous.
Ouais. Bonsoir, vraiment, bonsoir et vraiment bienvenue, bienvenue à tous, à toutes. Et vraiment, merci d'être là, merci pour votre présence. C'est un moment vraiment très particulier. Alors, pour Béatrice et moi-même, c'est l'occasion aussi de nous présenter rapidement. Nous sommes deux entrepreneurs engagés à accompagner sur mesure hein, des personnes et des collectifs dans leurs évolutions, avec une foi vraiment sans limite en la capacité humaine à se développer, justement, avec une expertise à la fois dans le coaching et également dans le co-développement, particulièrement à distance. Et toutes les deux, nous faisons partie d'associations professionnelles en lien, hein, de référence, que ce soit...
Alors, il y a une petite coupure chez Véran.
Ouais. Oui.
Alors, ça s'est arrêté à association professionnelle, Véran.
Ah bon? Alors, ICF pour le coaching et AQCP pour le co-développement. Et justement, d'une curiosité et d'un élan et d'une envie commune de partager au plus grand monde et de façon gratuite une méthode qui fait sens dans notre pratique, nous organisons 5 fois par an un rassemblement en invitant justement des personnalités et des experts dans les sujets qui nous concernent et que nous aimons. Et ce soir est un soir tout particulier et merci Claude d'être là parce que nous accueillons Claude Champagne. Et avant de dire quelques mots sur toi, Claude, j'aimerais partager une citation qui est dans ton livre, qui nous a particulièrement marqué avec Béatrice, et qui est Antoine de Saint-Exupéry, qui dit que dans la vie, il n'y a pas de solution, mais il y a des forces en marche et qu'il faut les créer et les solutions arrivent. Et on a trouvé que c'était un parfait lien avec ta présence ce soir. Donc encore une fois, merci. Nous avons bien conscience que c'est un cadeau que tu nous fais. D'ailleurs, lorsque nous avons partagé tous les trois, tu nous as dit vraiment « je viens vers vous ». Tu es avec Adrien Payette, un des concepteurs des groupes de co-développement professionnel, co-auteur du livre de référence bien connu sous le nom comme Livre Vert. Hein, je crois que Béatrice, tu l'as en main, ce fameux Livre Vert qui est paru en 97, voilà, que tout le monde a, bien évidemment. Tu animes depuis, bien sûr, de nombreuses conférences sur le sujet. Bien sûr, tu es membre très actif de l'AQCP et tu contribues au déploiement international de l'approche. Et justement, tu publies chez Erol un nouvel ouvrage qui s'appelle « L'intelligence collective au service justement de l'individu et du groupe ». Merci Béatrice de nous le montrer. Alors un grand, grand merci à toi et puis bienvenue de venir jaser un peu avec nous, une petite jasette comme tu le dis. Et puis bienvenue du coup à nos webinaires du co-développement 5.0.
Bien, merci de nous permettre de piquer une jasette ensemble cet après-midi ici. Et je dois vous dire que question météo, au Québec, on est gâté, il fait 29. Alors, pour une fois, je peux dire que c'est plus chaud que chez vous, quand même. On est bien contents. Allez, merci beaucoup d'abord de l'invitation. Et je veux souligner votre générosité à Béatrice et à Véran, parce que vous faites ça depuis un certain moment, de faire la promotion du co-développement. De toute façon toute gratuite et généreuse, et c'est très très apprécié de toute votre communauté. Et je veux aussi remercier votre patience parce que vous teniez à cette rencontre depuis vraiment déjà plusieurs mois. C'est moi qui ai demandé à Béatrice de retarder parce que j'étais dans d'autres activités autour de la rédaction du livre. Finalement, ça coïncide à peu près avec la publication du livre, mais c'est pas ce soir un événement promotionnel pour le livre en soi, c'est plus pour jaser co-développement ensemble.
Super.
Et j'ai une question, moi, pour vous, en commençant, parce que vous parlez de webinaire 5.0. Qu'est-ce que c'était le 4, le 3, le 2, le 1?
Écoute, moi, je veux bien te répondre, Claude, mais oui. Je sais pas si toi, tu suis sur Google la version 1, 2, 3, 10, 10.1, 15. Moi, je suis pas. Donc, j'ai sauté directement dans la version 5.0. Voilà. Ça me semblait être une version d'avenir, en fait. Voilà. Ça regarde devant. Je suis pas capable de te dire qu'est-ce que c'est les autres versions. Sinon, on s'est inspiré de Nathalie.
Vous faites cinq rencontres par année, avez-vous dire, c'est peut-être ça?
Merci. Voilà, justement, c'est ça. Allez, parfait. C'est ça. Oui, on fait 5 rencontres par an et on essaye d'avoir des personnes qui innovent, qui, comme nous, se projettent vers le futur. Et voilà. Donc, merci vraiment d'être là, Claude, avec nous ce soir. Peut-être t'accueillir en disant que quand j'ai découvert le livre vert, ça a vraiment été pour moi un socle, une base, une bible. Voilà, tous les gens qui l'ont peuvent le mettre, mais vous avez votre vidéo qui est fermée. Seuls les rebelles ont laissé leur vidéo ouverte, les autres ont suivi la consigne. Et quand on s'est rencontrés pour la première fois en 97 à la réunion de la QCP, à la convention de la QCP. Moi, j'ai été touchée par ton ouverture, ta volonté que ça se diffuse. J'étais pas encore allée au Québec, j'avais pas encore vraiment côtoyé l'état d'esprit québécois sur le co-développement. Et je comprenais pas ces divisions, ces petites batailles, qu'est-ce qui est du co-développement, qu'est-ce qui est pas du co-développement. Et j'ai vraiment été très touchée en arrivant au Québec de voir que finalement, tout était possible. Il n'y avait qu'à inventer, il n'y avait qu'à en parler pour être sûr qu'on reste dans une forme d'éthique. Et donc ça m'a particulièrement touchée. Donc je suis vraiment ravie de t'accueillir ce soir pour l'ouverture, l'humilité et l'innovation. Alors, si on rentre tout de suite dans le vif du sujet, Claude, t'es d'accord?
Non, c'est pas nécessaire, tout était dit.
J'ai oublié l'humour, donc ça c'est quelque chose qui marche bien. Alors voilà, donc on n'est pas là pour parler de ça, mais c'est quand même ça qui nous rassemble aujourd'hui, puisqu'on a décalé la date pour pouvoir attendre la parution de ton ouvrage. Quel cheminement t'as envie de partager avec nous? Quelle évolution entre l'apparition de cet ouvrage en 97, mais qui faisait suite déjà à plusieurs années de pratique, et aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que t'as voulu contribuer à nouveau par un ouvrage?
En fait, je suis pas certain que je parlerai de co-développement 5.0 pour ma part dans cette version. Peut-être 1.5, 1.10, peut-être 2.0 au plus pour en fait simplement dire que il s'agit essentiellement de la même idée, de la même approche, de la même méthode, vu un peu avec un nouveau regard après quand même 25 ans d'expérience personnel et partagé aussi par plusieurs passionnés du co-développement comme tous ceux qui nous entourent. Et l'idée était de reconstruire le socle, renommer les principes qui guident la démarche, les relire à la lecture de cette distance qu'ont permis les 25 dernières années pour s'assurer que ça demeure une démarche qui demeure justement ouverte, libre, créative dans la façon de le faire. Parce que j'ai vu qu'au fil du temps, il y a eu toutes sortes de personnes qui se sont qui ont utilisé le co-développement, qui l'ont adapté, qui se sont parfois appropriés avec toutes sortes de motivations. Et certaines amenaient à proposer une forme assez structurée, mais fermée, à mon avis, du co-développement, ce que je souhaitais pouvoir réouvrir. En nommant que ça aussi est possible d'avoir une démarche un peu plus encadrée, mais que aussi on peut se permettre de faire du co-développement de diverses façons et qu'il y a un très grand intérêt aussi à aller voir ailleurs comment d'autres démarches peuvent enrichir celle du co-développement et vice-versa.
Oui, c'est l'objet d'un chapitre d'ailleurs dans ton ouvrage sur la théorie U, comment on peut finalement lire le co-développement à l'éclairage de la théorie U ou mettre la théorie U à l'éclairage du co-développement.
Il y a aussi, on pourrait parler aussi de l'analyse de pratique, comment elle enrichit le co-développement, comment la démarche appréciative aussi enrichit la démarche en co-développement et plusieurs autres encore.
Bon, ok. Et donc, tu as constaté que ça continue à s'ouvrir, tout en restant dans ce que vous aviez imaginé avec Adrien au départ, où on s'en est beaucoup éloigné.
Ouais. J'ai voulu repréciser ce qu'on a imaginé, Adrien et moi, au départ, pour pouvoir dire, c'est un peu le squelette de base, si on veut, du co-développement, mais on peut en faire de d'autres façons, beaucoup plus approfondies, profondes, assurément, et aussi de façon plus légère, et c'est possiblement encore du co-développement, même si c'est peut-être un peu plus rapide, où les animateurs sont un peu moins formés, on arrive à créer, on cherche à créer ces espaces d'échange, de partage, de dialogue. En fait, cet espace réflectif conjoint que l'on veut créer en co-développement, que j'appelle justement dans le livre l'espace co-développement. Parce que je me suis rendu compte finalement qu'il y avait parfois des séances qui se déroulaient pas selon tout à fait les règles de l'art, que les questions étaient pas nécessairement les plus géniales qui étaient posées au client, mais que le client évoluait quand même dans son sujet. Et c'est peut-être donc pas uniquement les gestes fins de l'animateur cette fois-là ou les questions précises des participants cette fois-là, parce qu'on peut aussi convenir que une personne est là, est pas là à cette rencontre, une question est posée à un moment ou un peu plus tard, une intervention, un sourire, à chaque fois, le chemin va être un peu différent. Alors, il s'agit pas de trouver la perfection, mais de trouver comment on peut apprendre dans cette mise en situation et peut-être justement à partir de, parfois, de certaines imperfections qui vont nous relier et nous aider à prendre du recul et à apprendre.
Super. Véran, tu as envie de prendre le relais?
Oui, il y avait cette notion de temps et de durée qui vient plusieurs fois dans le livre.
Ouais.
En termes avec l'accélération de notre monde, mais aussi le fait que le groupe de co-développement permet vraiment une bulle de ralentissement. Il y avait vraiment cette notion-là qu'on a beaucoup ressenti.
Ouais, en effet, et je dirais que c'est pour plusieurs aussi parfois même un enjeu pour définir ce qui est ou pas du co-développement. Il s'est développé chez vous une façon de faire le co-développement à l'occasion qui à mon avis est de très longue durée. Il y a des séances qui peuvent durer jusqu'à 3 heures, et se prétendant à être de l'approche originale. Mais à l'origine, Adrien dans son cours et moi dans ma pratique en organisation, nos séances de co-développement ne duraient que 1 heure, 1 heure 15. Maintenant, j'ai trouvé un équilibre, je dirais, confortable à 1h30. Mais 3 heures, c'est rendu autre chose. Tant que si bien que quelqu'un me parlait récemment qu'elle faisait du flash co-développement et elle disait que ses séances duraient 1h30. Ah, tiens, c'est comme si c'était, elle avait la perception que c'était quelque chose de très court. Alors que finalement, ça ressemble tout à fait à ce que je dirais qui peut être l'approche au centre. Mais je dis pas qu'on peut pas faire des choses intéressantes en 3 heures. Tout comme on peut avoir des conversations peut-être plus structurées que ce que le serait autrement avec ce que les gens appellent du flash pour le développement. Mais pour moi, il demeure important de créer un contexte, de créer un processus qui va aussi s'étaler dans le temps. Il s'agit pas de rencontre unique, il s'agit d'une conversation qui se construit entre plusieurs personnes et qui crée ensemble une confiance et l'espace co-développement qui va les aider à cheminer ensemble.
C'est bien ce temps quand même, cette différence entre le flash qui serait un peu orienté solution, avec une séance qui serait un petit peu plus longue où on aurait le temps de faire des effets écho, des rebonds en intelligence collective, qui va faire un petit peu la différence, il me semble, Claude. Hein.
Oui, en effet. Oui, okay. Il y a une différence là, mais pas uniquement sur la base du temps. C'est aussi la dynamique que l'on réussit à créer les uns avec les autres.
Oui. Donc, qu'est-ce que tu as envie d'ajouter par rapport à cette dynamique? Quels sont finalement les prérequis pour créer cette dynamique?
Ben, je pense que ça prend des gens d'abord qui sont ensemble, qui ont comme un intérêt commun. Idéalement, qui vont développer et rendre l'intérêt explicite comme une quête finalement. Qu'est-ce qu'ils recherchent, et le partageant les uns avec les autres, ils vont pouvoir s'entraider autour de ça. J'évoque l'idée que ça part avec la quête, que le co-développement quelque part est une forme d'enquête à partir de la requête du client qui apporte ce sujet, et ben, le cheminement se fait ensuite le client va bien sûr choisir au travers ce qui lui est apporté, ce qui lui apparaît utile, ainsi que le groupe qui vont apprendre à partir de l'exercice qui vient de se réaliser.
Merci de rappeler ce côté quête justement de la part des participants, parce que je sais qu'il y a aussi des professionnels de l'entreprise là, il y en a pas mal ce soir qui nous écoutent, et donc ça remet sur le devant de la scène cet éclairage que c'est important que ces gens, les participants aient une quête, soient curieux par rapport à à un fonctionnement traditionnel qui serait d'aller chercher les besoins et d'identifier des gens qui en ont besoin et de leur imposer la participation. Ok.
Je voudrais ajouter aussi sur le temps. Oui. Et vous l'avez nommé, là, c'est important de se déposer en co-développement, de prendre quand même le temps de réfléchir, parfois ensemble avec d'autres personnes, entre les séances, il y a quelque chose, une continuité qui devrait s'installer dans le processus. Et ceci n'est pas compressible à l'infini. Il y a parfois des contextes organisationnels où des gens disent, mais vous faites ça habituellement en 1h15, une séance, alors pouvez-vous faire la séance complète incluant l'inclusion, les retours sur les apprentissages. Faites-nous ça en 1 heure parce qu'on n'a pas de temps. Mm. Alors, il faut peut-être arriver à apprendre qu'il y a quand même un minimum qui va être nécessaire ici. Mm. Mm. Et peut-être par ailleurs que d'entrer par cette porte va nous permettre de dire à un moment donné, ben, visiblement, si on veut aller plus loin, il faut se donner les conditions qui vont nous permettre d'y arriver. Alors, je ne dénigrerai pas des stratégies qui iraient vers du coup. Plus court au début, en nommant bien les enjeux, cependant, et en expliquant que c'est sûr, certain qu'on n'ira pas aussi loin dans une démarche que si on se donne les meilleures conditions possibles. De même que d'augmenter inconsidérablement le nombre de participants au sein d'un groupe pour des raisons économiques, mais là aussi, au-delà de 8-9 personnes, il y a un ensemble de relations qui se créent, qui sont de plus en plus difficiles à gérer au sein d'un groupe. Alors, l'optimum est vraiment, et ça, les praticiens l'ont bien senti, là, quand on partage l'expérience. L'idéal en co-développement va souvent être un groupe de 6 à 8 personnes.
Mmh. Oui, c'est ça. Et en ligne, même un petit peu moins, en fait, hein. En présentiel, on peut aller jusqu'à 8, et en ligne, souvent, c'est un petit peu moins que.
Voilà, en ligne, faut forcer encore plus, à mon avis, les temps d'arrêt, les temps réflexifs, pour observer, parce que sinon, les choses se passent qu'en deux dimensions.
C'est ça.
Avec l'importance de la phase apprentissage, hein, c'est quelque chose qui est souligné. Ça va bien au-delà de la solution, en fait. C'est bien l'apprentissage qui prend le temps.
Ouais. Et cette phase-là, souvent, dans les 6 étapes du co-développement, ces dernières phases sont souvent un peu escamotées parce que on a pris plus de temps pour questionner. On veut tout comprendre. Les gens qui sont cartésiens et analytiques vont vouloir aller chercher le maximum d'informations pour trouver les meilleures questions, aller chercher le maximum d'informations pour être certain de bien aider. Mais on aura peut-être escamoté à ce moment-là un bout à la fin. Moi, je suis d'avis qu'il ne faut pas nécessairement tout savoir pour comprendre un peu et aider une personne.
Ça aussi, c'est un changement de culture dans une organisation. Quand on pratique le co-développement, effectivement, au bout d'un moment, les participants savent qu'il n'y a pas besoin de tout savoir de tout comprendre pour aider. Mais dans les organisations, souvent, il y a quand même cette approche analytique. Il faut d'abord avoir regardé tous les éléments avant de pouvoir avoir un avis.
Et il y a aussi une petite différence culturelle là ici entre la France et le Québec, l'Amérique, je dirais même, et peut-être l'Europe. Dans le sens où on est beaucoup plus pragmatique ici. Vous êtes beaucoup plus dans le verbe et nous plus dans l'action. Et le verbe prend parfois plus de place. Et ça, j'ai souvent trouvé que le co-développement apportait ceci justement à la conversation avec des groupes de Français. Lorsqu'on dit qu'on veut aller à l'essentiel, avoir des interventions brèves, éviter le débat, alors là, souvent, on se dit, ben non, ça se peut pas, là, tu sais. Et puis après, pour dire, bon, mais finalement, tiens donc, tu sais, il y a aussi quelque chose, là. Mais on est dans des façons de penser, des univers culturels là-dessus, bien qu'on parle la même langue, qui sont assez différents. Et sans avoir, moi, retourné totalement que ça au niveau des sources, la philosophie du pragmatisme qui a beaucoup influencé la philosophie en Amérique du Nord, n'a pas vraiment trouvé de place en France. Au contraire, l'intellectualisme a un peu rejeté cette façon d'aborder les choses. Donc, cette idée de regarder l'action, de travailler à partir de prototypes, même d'avoir une démarche qui pourrait être en option centrée sur des solutions. Ça ne veut pas dire qu'on est juste en train de résoudre un problème, mais être centré sur une solution, déjà, c'est une façon différente de regarder un processus. Et moi, je pense que ça peut être une option dans la façon de travailler aussi.
Ça peut être aussi l'évolution du groupe ou l'évolution de la culture co-développement au sein de l'organisation, c'est-à-dire que ça entre par la porte résolution de problèmes, espace pour les managers pour réfléchir à leurs problèmes et trouver des solutions. Et puis petit à petit, on a des expériences sur justement 5 ans, 10 ans qui montrent que au bout d'un moment, ça va bien au-delà de ça et que c'est un espace de développement, d'apprentissage, de recherche. Tu parles de praticien-chercheur hein, dans les participants.
Ouais. Ouais. Mais tu dis, ce dont tu parles, Béatrice, toi-même, tu as intervenu auprès de la Régie des transports de Marseille. D'ailleurs,
oui,
c'est un témoignage qui est dans le livre.
Oui,
une intervention qui a duré sur 10 ans. Et ça, c'est une surprise aussi, parce que dans quelques témoignages qui sont dans le livre, il y a plusieurs interventions qui sont de longue durée.
Oui.
On n'avait pas ce regard-là auparavant. Et tu as vu, j'imagine, évoluer cette façon de...
Ben oui, c'est ça. Ça devient comme finalement une hygiène des participants, un espace où ils peuvent revenir. Parce qu'il y a des participants qui sont venus 2 fois, 3 fois participer à un groupe. Mmh. Et donc, au bout de quelques années, il y a quelque chose de vraiment profond qui se met en place. C'est comme si la confiance était déjà là, tu vois, alors que les tout premiers groupes, il fallait vraiment créer la confiance. Et puis après, l'organisation a confiance dans le co-développement et les gens arrivent et ils sont déjà en confiance. C'est vraiment intéressant comment ça fait partie de l'ADN après de l'organisation et puis de la culture de l'entraide, la culture du partage, du soutien, d'oser exprimer ses doutes et ses questionnements profonds. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Quelque chose qu'on pourrait évoquer, le temps file, malheureusement, on pourrait rester des heures à jaser, hein, Claude. Peut-être que tu reviendras début 2022 là pour continuer. On a évoqué rapidement le potentiel de déploiement, les secteurs où le co-développement n'est pas encore très connu. Qu'est-ce que c'est ta vision, toi, là-dessus?
Moi, j'ai pas une lecture très exacte de ce qui se passe en France ou en Europe. J'en ai quelques bribes. Au Québec, on a bien vu que le co-développement s'est davantage développé, et surtout au début dans les organisations publiques et parapubliques. Le système de santé, l'éducation, les coachs, et ensuite les entreprises ont été de la partie. Certaines associations professionnelles aussi. Alors que chez vous, c'est vraiment les gens qui ont importé l'idée l'ont davantage implanté dans des entreprises, dans des entreprises privées, et beaucoup moins dans d'autres secteurs d'activité. Moi, je pense qu'il y a un bel avenir pour le co-développement en éducation, de façon générale, tant en éducation supérieure que même en entraide entre les enseignants. Il y a un peu plus souvent l'analyse de pratique qui se fait dans ce sens-là, je crois, en France actuellement. Mais je pense que la dimension pragmatique du co-développement pourrait aussi intéresser les gens en éducation. En santé, bien sûr. Tout regroupement professionnel, même des ordres professionnels ici au Québec, l'ordre des psychologues, des conseillers en ressources humaines, la chambre des... le barreau qui regroupe les avocats organise des groupes de co-développement pour le développement professionnel de ses membres. Le secteur communautaire aussi, chez vous, les communautés territoriales, on commence à utiliser le co-développement. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de place pour ça. Le développement du leadership féminin, il y a plusieurs initiatives qui vont déjà un peu dans ce sens-là. Il y a parfois des groupes de co-développement qui sont naturellement féminins, mais souvent aussi, c'est aussi implanté dans des organisations qui veulent développer le leadership chez les femmes. Donc, il y a vraiment plusieurs secteurs d'activité là, où on peut penser que le co-développement peut contribuer, incluant toute la fonction publique et parapublique aussi chez vous.
Oui, ça c'est sûr qu'il y a du potentiel dans l'administration. Il y a déjà des choses qui se font, mais c'est encore un petit peu expérimental pour le moment. Tout à l'heure, tu parlais des femmes, etc. Donc, ça me faisait penser aussi que dans le co-développement, il y a beaucoup de permissions. C'est-à-dire que l'entreprise, elle peut faire un petit peu ce qu'elle veut avec. Elle peut lui donner un thème, une couleur. Elle peut le mettre en place à l'occasion d'une grande transformation, d'une fusion. En fait, finalement, tout est assez permis dans le co-développement. Hein. Je crois que ça a commencé par l'accompagnement des gestionnaires, mais finalement, ça s'est beaucoup élargi. Hein.
Tout est permis, puis tout est permis aussi à la limite dans la façon de faire le co-développement, ce qui pourrait amener bien sûr des dérives, parce que les gens peuvent mettre l'étiquette de co-développement sur des pratiques qui peuvent être un peu autre chose. Mais nous, on a toujours préféré, Adrien et moi, on a toujours préféré ne pas enregistrer la marque. Et ça demeure pareil. Et même si Adrien a contribué un peu quand même au livre, mais Adrien est retiré actuellement, on parle toujours de façon sympathique, je pense, de l'approche Payette et Champagne. Et merci encore à vous, cousins français, qui nous avez fait prendre conscience comment c'était festif comme appellation.
C'est très festif, oui, merci beaucoup. C'est vrai que en introduction d'un groupe, ça fait toujours son petit effet, l'approche paillettes et champagne. Hein. Les gens se disent, oh là là, mais qu'est-ce qu'on va faire dans ce groupe des paillettes, du champagne, mais qu'est-ce qu'on fait ici? Donc oui, c'est vrai. Merci Claude pour ce cadeau. Vous pouvez commencer à poser vos questions. On va bientôt arriver à la phase où vous avez vos questions à poser. Donc je vais les récolter pour pouvoir les transmettre à Claude. J'ai volontairement réduit le chat de façon à ce que ça fuse pas dans tous les sens et puis pour réduire les frustrations dues aux questions qui se répètent. Mais voilà, je guette vos questions. Alors, il y a un remerciement qui arrive pour avoir laissé ce cadre. Un remerciement, Claude, à toi et Adrien, je pense, d'avoir laissé ce cadre ouvert et disponible au plus grand nombre. Et ça, je crois que pour avoir échangé avec beaucoup de pères, c'est quelque chose qui est très présent dans l'esprit ici des animateurs. Cette ouverture et cette gratitude que nous avons tous envers vous pour avoir vraiment bataillé pour maintenir cette ouverture finalement, alors qu'il aurait pu avoir des forces contraires qui cherchaient à normer de trop, quoi.
Et cette générosité aussi que l'on sent très bien chez les praticiens du co-développement. Et d'ailleurs, comment spontanément le co-développement solidaire s'est mis en place dès le début du confinement. Et là encore, tu vois, il y avait des gens qui disaient, est-ce qu'on peut se permettre de faire du co-développement virtuel? Bon, toi Béatrice et Véran, vous étiez déjà...
Mais convaincus, nous.
Des fans, tu sais, mais avant l'heure. Je sentais qu'il fallait presque se l'autoriser, se donner le droit de le faire, parce que c'était un peu une pratique différente. Et je crois que ces démarches de co-développement solidaire ont été très profitables pour les gens qui ont participé.
Et elles permettent aussi de faire découvrir la technique. Il y a une première question qui nous vient de Suisse par rapport au terme co-développement. La question est de Lydie. Est-ce que c'est un terme canadien? Est-ce que c'est reconnu, compris en France et en Suisse, compris par les organisations? Il y a une question sur la terminologie.
Ah, c'est une question intéressante. En fait, au début, quand Adrien faisait son truc, lui, ça s'appelait des groupes de consultation. Et moi, c'était de l'auto-perfectionnement en gestion en groupe. Et puis, lorsqu'on s'est rencontrés et on a mis nos trucs ensemble, on a trouvé cette idée du co-développement professionnel. Et sans trop vraiment chercher, parce que on aurait peut-être pu ou dû prendre une autre appellation, mais c'est celle qu'on a choisie. Il existe une utilisation du mot co-développement en aide internationale. Si vous cherchez sur Google co-développement, ça va donner groupe de co-développement professionnel, mais ça va donner aussi des démarches d'aide internationale.
C'est donc
entre pays. Mais il n'y a pas aucune appellation contrôlée comme pour le co-design ou autre. Peut-être que ça entrera dans le Larousse prochainement. Il y aurait du travail à faire là-dessus. Il y a toutes sortes de mots qui entrent dans le Larousse.
C'est ça, il y a des fois des surprises aussi. Ouais. Alors, il y a aussi, je vais t'en poser deux, trois, puis tu choisiras par quel bout tu as envie de commencer. Il y a une question, justement, tu as évoqué les groupes d'analyse de pratique tout à l'heure, et la question de Cécile, quelle différence faites-vous entre co-développement et analyse de pratique?
Oh, ça, c'est une grosse question. En fait, ce que je vais vous inviter à faire, c'est d'aller jeter un coup d'œil sur la revue de la QCP, qui s'appelle le co-développeur, et la revue de l'analyse des pratiques professionnelles qui est faite en Suisse par Marc Thiébault et ses collaborateurs, où nous avons écrit ensemble avec Michel Desjardins un papier sur le comparatif entre les deux. Ça va, je pense, aider à répondre à la question. En deux mots, le processus n'est pas structuré de la même façon. En analyse de pratique, il y a beaucoup plus d'analyse, bien sûr, et en co-développement, il y a un peu plus de prédisposition à l'action, à la mise en application. Et les deux démarches peuvent s'apporter tellement l'une et l'autre que ça vaut la peine d'y aller voir.
Ok, bon, merci. Donc, je vous invite, je vous ai mis le lien, enfin, pas un lien d'ailleurs, mais je vous ai mis dans le chat pour mémoire, pour rappel. Alors, il y a une question qui vient de Guadeloupe, et alors je te la pose avec un petit clin d'œil et un petit peu de malice, hein, parce qu'elle dit: quel est le potentiel de déploiement du co-développement en ligne? Inutile de dire que tout le monde dit co-dev, hein, c'est long à taper co-développement, surtout avec l'accent. Moi, j'aime pas le terme, personnellement, je le trouve réducteur parce qu'on oublie groupe au passage, mais ouais. En tout cas, quel est le potentiel de déploiement des groupes de co-développement en ligne, à ton avis?
Juste avant, j'ai moi aussi dû réduire. Pour moi, c'était toujours important d'utiliser groupe de co-développement professionnel, mais en réécrivant le livre, je trouvais que c'était long souvent à faire. Je ne me suis pas résolu de parler de co-dev, sauf pour le e-co-dev, comme le co-développement à distance. Il y a un potentiel, à mon avis, qui est formidable. Surtout dans la période dans laquelle on est, parce que ça va aider à faire que les rencontres en ligne vont peut-être avoir un peu plus d'humanité, être un peu plus structurées. Par contre, bien que je sais qu'actuellement plusieurs organisations ont revu carrément l'ensemble de leurs interventions de formation interne dans les organisations, parce que tout se déroule en ligne ces jours-ci, et qu'il prévoit que le coût de développement qui est pour les prochains mois va continuer à être sur cette base-là, parce qu'entre autres, ça permet aussi facilement de réunir des gens qui sont éloignés les uns des autres. J'espère personnellement que la dimension humaine va pouvoir toujours continuer à être là et qu'il va falloir reconnaître que les participants qui passent leur journée en ligne puis qui font aussi du coût de développement en ligne, il va y avoir cette fatigue psychologique intense qui va s'installer à un moment donné. Et c'est fou comment on va avoir besoin de se toucher, de se voir, de se voir en trois dimensions, d'avoir un peu plus de temps avant et après pour bavarder tout simplement, se rendre et réfléchir au sujet que l'on va présenter, revenir et réfléchir à ce qui s'est passé. Malheureusement, actuellement, on ne se donne pas ces disciplines avec les activités qui se font à distance pour pouvoir mieux se déposer.
Le paradoxe, c'est que finalement, quand les rencontres seront revenues à la normale, le co-développement à distance pourra se développer pleinement puisque les gens pourront se voir et se toucher toute la journée. Et ça leur permettra d'être en contact avec leurs collègues à l'autre bout de la France ou du monde ou à l'autre bout du Canada. Il y a d'autres questions, Claude, si tu permets. Il y a notamment une question sur ton observation de l'évolution de la posture du facilitateur de groupe entre ce que tu avais fait avec Adrien au début et puis des nouvelles façons de faire, des évolutions. Qu'est-ce que tu as observé dans ta recherche récente pour ça?
Je dirais, il n'y a pas tant que ça de choses, à mon avis, qui ont changé sur la posture, sauf de mieux la nommer. C'était carrément bien nommé qu'il s'agit d'une posture basse, généralement, qui est au service du groupe. Il y a ce passage pour plusieurs qui doit être fait entre être un coach soi-même et s'assurer que le coaching se fasse par le groupe. Ceux qui ont déjà un métier de relation d'aide dans le corps doivent réussir à faire ce passage pour que la démarche provienne du groupe. Et justement, dans le livre, je propose un cadre de référence à la fin, un profil de compétences et de gestes clés que pourrait poser l'animateur. Pas pour que ça devienne un outil d'évaluation go, no go, mais plutôt pour que ce soit une balise pour amorcer des discussions sur le sujet. On commence à en parler un peu plus des compétences à démontrer à chacune des étapes, mais pas que à chacune des étapes, parce que le co-développement, ce n'est pas que les six étapes. Donc, toute cette façon d'être et d'être en relation avec les participants qui devraient être nommés. Donc, je dirais, ça a sûrement pas changé tant que ça. Certains gestes dans les techniques, je dirais, parce qu'il a fait sourciller quelques-uns à un moment donné, comme par exemple lorsqu'on arrive à l'étape du contrat. Au début, le contrat, le client y allait tout de go en faisant sa demande. À partir de sa demande initiale, alors que moi, dans ma pratique, j'ai intégré que avant que le client écrive sa demande, qui deviendra par la suite le contrat, qu'il demande à quelques-uns des participants comment ils entendent la demande, qu'est-ce qu'ils perçoivent qu'est la demande du client, pour l'aider à la clarifier. Alors, certains ont dit, mais en ce faisant, on se trouve à influencer le client dans son choix définitif. Oui, ça se peut. Et, de toute façon, on est là pour s'influencer les uns les autres puis pour apprendre ensemble. Donc, ça m'est apparu quand même plus utile pour aider les clients déjà à cette étape pour voir d'autres façons qu'ils pourraient nommer sa demande pour ensuite, cependant, décider lui-même. Okay, peut-être donner d'autres angles possibles, mais celui que je choisis est celui-là et on va continuer par la suite.
Ok, alors pardon d'avance pour toutes vos belles questions, elles vont être conservées, on les enverra à Claude, peut-être que ça peut te donner des idées pour un ouvrage suivant ou en tout cas des articles pour le co-développeur. C'est vrai qu'on avait parlé des compétences clés de l'animateur et puis que le temps a filé et que c'est un sujet qu'on n'a pas pu aborder. Véran, il y a quelque chose que tu as envie de sur lequel tu veux mettre l'accent?
Oui, très volontiers. Avec ton expérience et donc ces 25 ans de vision, à ton avis, quels sont les prérequis pour participer à un groupe? Ce qui est souvent une question que l'on a pour les personnes qui ne connaissent pas encore. C'est quoi pour toi les prérequis pour participer à un groupe?
Alors là, ça n'a pas changé depuis le début. Il s'agit de personnes qui croient qu'elles peuvent apprendre les unes avec les autres. Alors, okay. Quelqu'un qui arriverait en disant, mais moi, je veux apprendre sur un sujet, mais j'ai pas confiance que les autres personnes qui sont là peuvent m'apporter quoi que ce soit. Mais ça sera pas intéressant ni pour cette personne, ni pour le reste du groupe. Et qui sont capables de se mettre dans un mode de confiance aussi pour pouvoir travailler à partir de leur propre pratique, de façon honnête et authentique, que ce soit des gros morceaux de la pratique ou des petits morceaux, ils devront être disposés à apporter quelque chose qui va être partagé avec les autres participants. Et même si leur sujet n'est pas traité à chacune des rencontres, je dirais que chaque personne devrait avoir bien, bien clairement en poche le sujet sur lequel il va vouloir travailler durant la série de rencontres, et qui va peut-être évoluer même si c'est pas son sujet qui a été abordé lors de la rencontre d'aujourd'hui. C'est cette idée de quête qui est importante. Donc, la personne n'arrive peut-être pas avec une quête, mais sinon qu'avec un désir d'amélioration sur quelque chose en croyant qu'elle va pouvoir le faire avec d'autres personnes.
Ça rejoint l'idée vraiment du participant praticien chercheur, parce que comme tu dis, il y a une quête, mais souvent la quête est transformée avec les questions des autres pour arriver à un contrat, et l'apprentissage il est encore plus grand derrière. C'est vraiment plus
belle. Alors, je sais pas si on a le temps, Véran, d'avoir encore une question. Justement, il y en a une sur la phase d'apprentissage. Pour toi, Claude, quelle dimension au pluriel peut recouvrir la phase d'apprentissage? Si tu devais qualifier les dimensions de l'apprentissage, comment tu les qualifierais?
Ça va dépendre de la situation qui va être abordée. Mais assurément, il y a quelque chose autour de la quête de la personne, en effet, de son cadre de référence, de son modèle d'action. Parce qu'ultimement, on va souhaiter en co-développement arriver à expliciter le modèle d'action, voir ce qui est efficace. Donc, on va avoir un regard plus conscient et efficace et autonome de sa pratique professionnelle. Donc, tout geste qui va aider à être un peu plus conscient par le regard des autres, par le bilan que l'on va faire sur ce que l'on vient d'apprendre, l'explicitation de ce qui vient de se dérouler, va nous donner de l'information assurément utile. Souvent, on fait l'évaluation des apprentissages, en fait, des impacts à la fin de la séance autour de qu'est-ce qu'on a apprécié de la séance. Qu'est-ce qu'on a appris? Et là, appris, ça peut être très, très large. Qu'est-ce qu'on compte mettre en application? Et qu'est-ce qui est en relation avec nos intentions initiales? Comment le sujet, notre posture a-t-elle évolué? Et moi, je pense qu'il y a aussi intérêt à déposer ces choses dans quelque chose comme un journal de bord, un journal personnel, pour garder des traces, pour se regarder d'une fois à l'autre. Ces éléments-là, qui ne sont pas des étapes dans les six étapes, font partie de la quête, d'un élément de la quête qui va nous permettre d'évoluer.
Ok, alors je ne sais pas, Véran, si on a encore le temps pour une dernière question. Elle est un petit peu clin d'œil. Est-ce que rapidement on prend une dernière question? C'est Sébastien, Claude, qui te demande qu'est-ce que le Claude de 2021 conseillerait au Claude de 1997?
Ah là là, bonne question. Sébastien qui? Est-ce que je connais?
Oui, tu le connais, oui.
Ah, ben peut-être qu'il lui dirait « Lâche ta job et ne fais que du co-développement parce que tu as quelque chose là, à développer davantage qui pourrait aller plus loin. » Parce que moi, j'ai toujours été dans ma carrière en organisation responsable d'activités de formation, de développement dans, au sein d'une organisation. Je n'ai pas été à temps plein en termes de développement. Ce n'est qu'à ma retraite, à peu près, que j'ai pu me réinvestir plus intensément. Et finalement, mais c'est fini la retraite. Hein, là.
Donc finalement, c'est ce qu'on pourrait dire en conclusion à chaque personne ici qui se questionne. On va dire, range ta job et consacre-toi pleinement au co-développement. Hein. C'est ça le message finalement.
Ouais, je suis pas certain parce que en fait, tout événement difficile va nous permettre d'apprendre des choses. Pourquoi j'ai fait du co-développement au début, c'est que j'étais en partie insatisfait de la dimension pratique de la formation que j'avais reçue à l'université. Et j'ai réuni un groupe de personnes, on a travaillé ensemble, puis surtout on s'est fait aider par le psychologue Yves Saint-Arnaud, on a fait de la praxeologie, puis tout ça pour moi a créé un momentum qui m'a permis de réfléchir sur des moyens de se développer professionnellement à partir de l'insatisfaction que j'avais initialement. De même que le livre, c'est une partie, et je remercie les gens qui ont eu qui ont des pratiques diverses, qui ont invité finalement à la nécessité de d'écrire un certain nombre de choses, parce que c'est comme ça aussi qu'on évolue à partir de la diversité, qui est beaucoup aussi recherchée en cours de développement.
C'est vrai. Bon, ben c'est super. Alors justement, cette diversité, peut-être qu'on va pouvoir la voir. Je te rends la parole tout de suite, Véran, et j'invite tout le monde à ouvrir les vidéos hein, pour que Claude vous voit quand même. Voilà, ça y est.
C'est tellement inspirant. Voilà, et vraiment le clin d'œil, c'est qu'en page 20 hein, de ton dernier livre, je vais citer aussi une phrase qui dit que le propos tenu dans cet ouvrage encouragera une diversité de pratiques et de points de vue qui ajoutent au socle du co-développement. Et que justement, avec Béatrice, nous disions voilà, que c'est un privilège d'avoir un invité qui est au fondement des choses, mais d'être autant dans l'ouverture. Et tu l'incarnes, et merci pour l'inspiration, parce que non seulement vous avez créé avec Adrien, mais tu viens vers nous avec, et c'est très ouvert, et ça continue en évolution. Donc merci pour tout ça. Merci à tous pour votre présence ce soir. Vous recevrez dès demain le lien pour réécouter. Vous retrouverez bien sûr Claude sur LinkedIn, de même qu'un lien pour éventuellement se procurer le livre. Nos prochains rendez-vous seront le 23 septembre. C'est vrai qu'on n'a pas abordé le sujet, Claude, mais ça sera peut-être aussi une autre occasion, puisque nous sommes sur le retour sur investissement des groupes de co-développement. Il y a eu l'épisode 1, et là, ça sera l'épisode 2, le 23 septembre. D'ailleurs, nous recherchons éventuellement des témoignages, puisque là, nous interrogerons des commanditaires, donc sur des retours d'expérience, sur le retour sur investissement. Et puis ensuite, ce sera en novembre, mais là, nous verrons, nous en reparlerons une prochaine fois. Donc, merci à tous. Et je crois que maintenant, on peut tous se faire un coucou. Et puis, bien sûr, un clin d'œil à Claude. Merci.
Merci. Merci beaucoup à tous. Et merci à vous tous et toutes d'être des ambassadeurs du co-développement. Il s'agit d'une intelligence collective ici, tout à fait, là, qui ne fonctionnerait pas par une seule personne. Alors, merci à vous tous et toutes.
Okay. Merci. Je crois qu'on peut arrêter l'enregistrement. Merci.